Monsieur Jean-Sébastien Bach, on peut le dire, monsieur, c'est un seigneur en réalité dans la musique baroque, effectivement, avec peut-être cette notion très rapide. Catherine Gaillard, bonsoir.
Bonsoir, Waldo.
En fait, c'est vrai, vous aimez la musique baroque, ça c'est une certitude.
Oui.
Enfin, quand je dis vous, on peut se dire tu, parce que on se connaît depuis longtemps maintenant, puisqu'on va parler poésie, on va parler nouvelles, on va parler écriture, on va parler musique aussi, on va parler un petit peu de tout ce qui nous fait plaisir et de tout ce qu'on a envie de raconter sur soi, sur la vie, sur ce qui se passe autour de nous, sur la fête. La fête, tu fais la fête de temps en temps, tu aimes faire la fête?
Bah, en fait, j'ai peu d'occasion de faire la fête. Je suis peut-être trop raisonnable.
Trop raisonnable?
Ouais, je crois.
Ah, ton idée est raisonnable.
Bah, c'est pas une idée, c'est qu'en fait, quand j'ai du temps, ben, je l'utilise pour travailler, pour écrire. Et puis au fond, ben, c'est vrai que comme j'ai une grande famille, la fête, elle se fait plutôt en famille, souvent. Mais bon, disons, j'aime bien sortir, j'aime bien réunir des amis.
C'est une manière de
communiquer. Oui, c'est ma façon
fête.
À moi de faire la fête, oui.
Ouais,
plutôt de cette
ça.
Façon, voilà. Ouais.
Alors, on va commencer par faire une fête en musique avec un instrument. J'aime bien la guitare.
Oui, j'aime bien la guitare.
Alors, ça tombe très bien. En voici justement.
Thank you.
Anton Kudryavtsev, ce guitariste que nous écoutons, qui est un guitariste en fait ukrainien, qui a étudié au conservatoire de Saint-Pétersbourg et puis à Bienne et à Berne aussi. Donc voilà, un personnage qui a aussi fait ses études chez nous. Et puis un personnage qui collabore avec des compositeurs contemporains, qui a déjà interprété en création plusieurs œuvres pour guitare et qui est, nous dit-on, lauréat de plusieurs concours internationaux de guitare et puis on s'en doute d'ailleurs, une grande activité concertante. Guitare que tu aimes passionnément, Catherine. Je dis bien Catherine Gaillard Saron, car le nom d'artiste a son importance. Et il y a beaucoup de Catherine Gaillard, ce qui est normal, n'est-ce pas ? Une plénitude, une béatitude de Catherine Gaillard. Mais il y a une Catherine Gaillard Saron, c'est la nôtre pour ce soir, à l'écran de nuit et grand jour. La guitare, oui, la guitare, c'est aussi un instrument qu'on rencontre assez souvent dans certains films, au cinéma. Tu vas souvent au cinéma ?
Oui, je vais souvent au cinéma, enfin autant que je peux, quand j'ai le temps. J'aime aller voir des films qui me font réfléchir, des films qui me questionnent. J'aime bien ressortir du cinéma, pouvoir discuter et me dire plein de choses à son sujet, les émotions, enfin, etc. C'est pour ça que j'aime pas aller au cinéma toute seule, par exemple, pour pouvoir en parler, le partager. Voilà.
Oui, c'est vrai que pour mais partager un plaisir, il faut être dans une salle de spectacle.
Bah, et puis, il faut aussi pouvoir, après, partager les émotions qu'on a ressenties. Mais c'est vrai qu'aussi, maintenant, il y a pas mal de possibilités d'avoir les DVD. Ce qui fait que je vais peut-être un petit peu moins au cinéma. Je regarde davantage aussi de DVD. Ce qui me permet de faire un choix dans des films que je n'ai pas eu le temps de voir quand ils passent. Parce que malheureusement, ils passent tous en même temps. Et puis,
on n'a pas toujours le temps. On partage moins, alors, ouais. À ce moment-là.
Si, parce que je ne les regarde pas seule non plus.
Ah, quand
voilà,
même.
Non, je ne me mets jamais devant la télévision toute seule.
Et c'est vrai qu'un film drôle, un film humoristique, un film plein de... ou de tendresse autre, on a l'envie peut-être qu'une salle entière vibre avec soi, plus que d'être dans son petit coin du feu.
Oui,
ça
c'est
dépend
vrai.
Peut-être du film.
Mais ça dépend des films, parce que souvent, les films que je choisis d'aller voir, il y a peu de monde. Parce que c'est des films peut-être des fois trop qui font trop réfléchir. Les gens peut-être ils préfèrent aller ouvrir cette fenêtre là et puis voir des choses plus divertissantes, des choses qui les font pas réfléchir. Mais je me dis le cinéma d'auteur justement, c'est des gens qui intériorisent ce qu'ils voient, qu'ils redonnent. Alors c'est ça qui m'intéresse, de voir comment ils le ressentent eux, puisque c'est ce que je fais moi en fait comme travail également par l'écriture.
Quel genre de film alors?
Je sais pas, là je ne viens pas.
Par exemple,
je sais que Mara Dentro m'avait beaucoup intéressé. J'avais beaucoup aimé les émotions qu'il y avait dans ce film. C'est des questionnements puisque c'était sur l'euthanasie. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'avais bien aimé aussi comme film? Ne dis rien. Non, je confonds avec un autre film. Tais-toi, je crois que c'était
Tais-toi,
un film.
Tais-toi, c'est un film drôle. Ça. C'était avec,
non, alors, c'est pas celui-là du tout. C'était un film
c'est...
espagnol
c'est
sur,
avec,
sur les femmes bêtues, donc ça n'était pas drôle.
Alors,
c'est
pas celui-là. C'est pas Tais-toi.
Mais c'était un film extrêmement violent, je veux dire, dans le sens des images.
Tais-toi, c'était avec Depardieu.
Non, alors.
Jean Reno.
Oui, c'est pas celui-là. Non, c'était pas celui-là. Alors, c'est vrai que je vais plus facilement voir des films comme ça. Parce que je pense que voilà, la vie, elle est plus là, au quotidien. Les thèmes m'intéressent, oui, les thèmes, les comportements humains, l'attitude des personnes dans leur société, etc. Tout ça m'intéresse, oui. Moi, j'observe, je regarde. Et après, je crée des fictions par rapport à mes histoires également. Et je mets les gens en scène à ma façon, je veux dire. Mais toujours avec les émotions humaines, les comportements humains. Rien ne change en fait, si on veut bien, la société change, les gadgets électroniques viennent par là-dessus, mais j'entends les humains, ils restent pareils avec leur comportement. Donc.
Thank you.
nous parlions cinéma, et bien ça tombe bien, voilà que sur nos platines bondissait ainsi le piano de la colonne sonore du film Amélie Poulain, le film de Genet, merveilleux film que j'ai énormément apprécié, je pense toi aussi, alors manifestement.
Oui, alors mais ce qui est étrange, c'est qu'en fait je suis allée voir le film après avoir entendu la musique justement, qu'on vient d'entendre là, qui est de Jan Tiersen. Et je me souviens quand j'ai entendu cette musique, ce piano, ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée. Et c'est à travers la musique que je suis allée voir le film, que j'ai beaucoup aimé avec sa poésie et tout. Mais par la suite, j'ai écouté et réécouté la bande du film avec toutes les je sais pas combien il y a, 12, 13 morceaux, 14. Puis en fait, après, je me disais, j'ai même écrit une nouvelle là-dessus qui s'appelle Musicomane. J'étais devenue accro à cette musique, quelque part.
Et un fou de musique, au fond.
Mais j'adorais cette musique. Elle me parlait, elle me touchait. Elle révélait des choses en moi, un peu. Il n'y a pas forcément besoin des mots, justement, pour dire les choses. Comme, justement, le CD qu'on a fait, qui s'appelle « La musique des mots », c'est ça que je veux traduire. Dire ces choses, sans mots, en fait. Et quand j'entendais cette musique, c'était comme un langage... C'était comme un langage mystérieux, le langage de la musique des mots, je dirais. Voilà, un peu ça. Ça me touchait sans besoin qu'il y ait de paroles et ça révélait des choses comme si je les connaissais déjà et que ça mettait la lumière un peu.
Ce qu'il faut dire, c'est que la musique des mots est extraite d'un CD que tu as fait paraître récemment, mais pas toute seule.
Non.
Il y a un accompagnement qui est assez exceptionnel, qui va certainement... nous dirons attirer les curiosités des auditeurs et auditrices parce que c'est assez particulier, mais ça mérite d'être précisé, d'être présenté.
Voilà, alors c'est vrai qu'au départ c'était une petite idée. Ma maman ne pouvait plus vraiment lire mes poèmes, alors je lui ai proposé de les mettre en musique. C'est grâce à Valdo que le projet a pu se faire. Il a proposé d'utiliser son studio. Et mes amis, dans un premier temps, une amie à laquelle j'avais demandé si elle voulait bien m'accompagner au piano, Christine Sondeau, de venir, si elle pouvait faire quelque chose. Puis en fait, elle m'a dit qu'elle réfléchirait, elle m'a téléphoné en me disant qu'elle avait une meilleure idée. Et puis que cette idée, c'était que ses amis avec lesquels elle faisait du chant harmonique, mais harmonise mes textes. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est super, c'est génial comme idée, quoi de mieux que d'autres voix humaines pour accompagner la mienne, une autre voix, quoi. Donc je trouvais ça super, c'était du sur-mesure en quelque sorte. Et puis voilà, le projet est parti comme ça. Il a roulé sur 2 ans, et puis le 25 mai, on a abouti le CD. Alors je profite justement de cette antenne pour remercier Valdo, et puis mes 8 amis, dont Christine, qui les a dirigés, voilà.
Alors on va écouter ce que donne cet ensemble vocal d'harmonie vocale, vocale harmonie, c'est très difficile à situer.
Oui, c'est très difficile. En fait, voilà, c'est des voix et des émotions qui s'habillent, qui donnent du relief, de la profondeur, à mon avis, à l'un et à l'autre, au son et aux mots. Je trouve le mélange très bon. Écoute, et tu entendras ce qui derrière les mots fait vibrer toute vie. Écoute, et tu saisiras ce qui entre les lignes ne sera jamais dit, ce que le cœur entend et que t'es la raison, ce que l'âme comprend, baignant dans l'émotion, toute chose sensible, à jamais illisible. Car tapis entre les phrases, si tu sais te mettre en phase, est un étrange langage, ouvert à d'autres rivages. Si tu sais le déceler, si tu sais tourner la clé, c'est au monde de l'esprit que tu accèdes l'ami. Car les mots comme les croix, témoins de ce qui n'est plus, ne sont que les tombeaux froids de nos émotions perdues. Et les phrases les plus belles sont autant de lettres mortes, quand pour vibrer avec elles, il faudrait ouvrir la porte. Maintenant, quand tu liras, la musique tu entendras, celle qui fait parler l'esprit, celle qui fait tourner la vie,
Enfin, tu auras compris que pour faire vivre les mots, il faut aimer jusqu'aux mots de celui qui les écrit. Écoute, et tu entendras ce qui derrière les mots fait vibrer toute vie. Écoute, et tu saisiras ce qui entre les lignes ne sera jamais dit. Ce que le cœur entend et que t'es la raison. Ce que l'âme comprend, baignant dans l'émotion. Toute chose sensible, à jamais illisible.
Nous étions dans les steppes de René Aubry pour ponctuer les mots de Catherine Gaillard-Saron et des voix harmoniques, petite merveille de la réalisation radiophonique, on peut le dire, et de la nouvelle et du poème. Jouer avec les mots, c'est bien le fait, et s'il est un personnage qui joue avec les mots, encore mieux que personne dans un autre style, dans un autre univers, plus humoristique celui-là, c'est bien Raymond Devos.
Oh là là ! Oh, ça va mal ! Ce sont mes chaussures. J'avais dit au vendeur, j'avais dit, elles ne vont pas. Et il me dit, de l'extérieur, elles font bien. Et il dit, oui, mais à l'intérieur, elles font mal. Il me dit, de l'extérieur, ça se voit pas. Mais j'ai alors, vous n'avez qu'à me les retourner. Il me dit, si je vous les retourne, ça se verra. Et bien, je ne vois pas que ça se voit, je les garde comme ça. Et puis après, en partant, il me dit, si ça va pas, vous n'avez qu'à me les retourner. Ça n'a pas de sens. Il y en a des choses qui n'ont pas de sens. Un chapeau, ça n'a pas de sens. Moi, quand je mets le mien, il y en a qui me disent, faut porter un pareil chapeau, faut être malade. Et puis d'autres qui me disent, avec ce chapeau, t'as bonne mine. Les avis sont partagés. Je mettrais bien un béret, mais un béret, ça n'a pas de sens non plus. Vous pouvez le tourner de tous les côtés, il est toujours de face. Alors, faut le mettre sur l'oreille à cause du soleil. Mais le soleil, ça n'a pas de sens, ça tombe, ça. Alors quand le soleil est là, béret, faut le changer d'oreille. Et quand le soleil se couche, le béret, faut le mettre dans sa poche. Et là aussi, les avis sont partagés. Il y en a qui le mettent dans la poche droite, d'autres dans la poche gauche. Puis il y en a qui le mettent dans la poche revolver, mais ça n'a pas de sens. On met jamais un revolver dans cette poche-là. On le met dans un tiroir. Alors que ça n'a pas de sens non plus. Parce que si vous mettez votre revolver dans un tiroir et que vous êtes attaqué dans la rue, n'allez pas à sortir votre béret pour vous couvrir. Pour mettre un casque. Un casque, ça n'a pas de sens. Sauf en cas de guerre. Et comme la guerre, ça n'a pas de sens, il vaut mieux garder son chapeau. Ah, oh, il y en a des choses qui n'ont pas de sens. L'autre jour, j'assiste à l'arrivée des six jours. On annonce au micro qu'un coureur s'est échappé. Je dis, avec le monde qui est autour, il peut pas aller loin. Et effectivement, ils l'ont rattrapé à l'arrivée. Un coureur de 100 mètres, au départ, on le met à quatre pattes comme une bête. On lui tire un coup de revolver dans le dos. Le gars prend peur, comme la partie. 100 mètres plus loin, lorsqu'il est hors d'atteinte du fusil, il s'arrête. C'est humain. Et un sauteur, on lui fait sauter 1m50, et puis 2 mètres, et puis on augmente, 3 mètres. Alors après, le gars, il prend une perche. L'autre jour dans la rue, je vois un populaire tomber du 5e étage. Il y avait un monsieur en dessous, j'ai dit, c'est pour lui. Et plouf, il l'a reçu. Parce qu'il regardait pas en l'air. Moi, quand je traverse la rue, je regarde en l'air. Alors l'automobiliste, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il regarde aussi. Pendant ce temps-là, je passe. Il y en a qui m'a dit, mais alors, si lorsque vous traversez, l'automobiliste regarde en l'air aussi, il ne vous voit pas, il vous écrase. Je dis, comment voulez-vous qu'il m'écrase s'il ne me voit pas? Un jour, j'étais sur la route dans ma voiture. Je vois un moine qui traverse sans regarder. J'ai eu juste le temps de l'éviter. Je suis descendu, j'ai dit, mon père, je m'excuse, il n'était pas dans mes intentions de rentrer dans les ordres. Il m'a dit, mon fils, il n'est pas nécessaire de rentrer dans les ordres pour avoir une bonne conduite. Et l'autre jour, je vois un monsieur descendre en marche de l'autobus, comme ça. Et je lui dis, faites jamais ça, vous allez tomber. Je lui dis, si vous voulez descendre en marche de l'autobus, bon, vous êtes sur la plateforme. L'autobus roule. Vous vous laissez déporter, et au dernier moment, faut attendre l'arrêt.
Inventami l'ora passata l'età, corrigimo una mano sopra lui che fa, insegnami l'alba ad un altro colore, a spera di sole ad un altro campo. Dimmi ciò che manca, ciò che venerà, l'odore spietato dell'umanità, e insegnami l'alba per un altro amore, guerra un calore ad un altro campo. Insegnami l'alba che il sole leva, a spera di sole un altro campo. Insegnami l'alba che si leva un fiore, dammi su favore ad un altro compa. Insegnami l'alba che il sole pisa, dammi su favore ad un altro compa. Insegnami l'alba ad una morata, un guerra, un calore, un altro campo.
Raymond Devos en 1967 et en public bien sûr, et là à l'instant Imouvrini, lauréat des Victoires de la Musique 1997, c'est l'année pour eux de la consécration. 1997 avec Imouvrini, ça nous fait joyeusement 30 ans plus tard. Il s'en passe des choses dans le temps et dans l'espace. On peut le dire, Catherine Gaillard-Sarron, le texte, les mots passent, sont éphémères, on croise le verbe comme on croise les gens. Mais ça disparaît.
Alors c'est pour ça que le poème est important aussi, parce que justement, il essaie de donner de l'importance aux mots. Il dit plus avec moins. Alors là, je vais vous lire un poème, ce ne sont pas des mots valises, mais des mots balises plutôt. Pour moi, un poème, ça serait essayer de dire l'essentiel, bien sûr. Pressurer les mots pour en extraire l'essence, quelque part, le fluide essentiel. Alors là, le mot balise. Des mots comme des outils, des mots comme des ferments, pour bien forger le monde et faire lever l'esprit. Des mots comme une matière, autonome et vivante, pour incarner l'idée et créer la pensée. Des mots à repenser, quand le sens est trahi, des mots à inventer pour retrouver du sens. Des mots comme des bagages, des mots comme des balises, pour ne pas oublier et éclairer le monde. Des mots comme un espoir, des mots comme un salut, pour pouvoir exprimer et toujours exercer l'immense liberté que celle de penser.
Le Brass Ensemble Quintessence, c'est cette page de George Gershwin dans l'arrangement d'Alain Ferny, Someone to Watch Over Me. Catherine Gaillard, c'est une musique qui, je suis sûr, t'inspire un tantinet.
Oui, alors ça me touche beaucoup cette musique, je la trouve très belle. Je sais pas, je vois le cirque, je vois un funambule sur son fil qui est plus qu'au-dessus de la scène, mais carrément au-dessus du monde, des nuages. Et ça me fait penser à un poème que j'ai écrit qui s'appelle « L'équilibriste ».
Le plaisir de l'écouter.
Voilà, je vais vous le lire. « Pareil au funambule qui marche sur son fil, il ouvre grand les yeux sur le vide du monde. Il sait l'abîme sous ses pieds, le voit autour de lui. Mais un pas après l'autre, il choisit d'avancer, ignorant le néant qui tout entier l'attire. Pareil au funambule qui marche sur son fil, il va tout doucement, les yeux face au mystère. Il sait l'abîme sous ses pieds, mais il ne le craint pas. Confiant en chaque pas, lentement il progresse, au-dessus de ses peurs et des horreurs du monde, conscient que pour survivre, il doit les dépasser et transcender le vide pour garder l'équilibre.
Thank you. Thank you.
Le premier mouvement du quintet opus 107 en fa majeur de Anton Reicha, l'Allegro Manon Tanto, par le quatuor Amati avec au bois Courtemeyer. Il est aussi bien des musiques que des instruments, Catherine Gaillard-Saron, qui inspirent des mots. Une note inspire un mot. Et par exemple, un hautbois peut-il nous faire pencher sur la conscience ?
Oui, ben, j'entends toute la musique sacrée quelque part, moi, me touche. Elle me met en fait en relation avec mon être profond. Et du coup, c'est vrai que ce genre d'émotion amène des sentiments profonds également. Et puis, c'est en écoutant ce genre de musique qui m'est venue l'idée d'écrire conscience, prendre conscience de ce que je suis. Je ne suis rien, mais j'ai conscience de tout. Je ne sais rien, mais j'ai accès à tout. Je ne peux rien, mais je suis complice de tout. Comment être si peu, quand tout vous condamne à être tant ?
Ben oui, c'est
alors là, c'est vrai que, voilà, on peut se poser la question. Souvent, je me disais, est-ce que Dieu existe à travers la conscience qu'il nous a donnée ? Et puis, après, en réfléchissant, en écrivant ce poème, je me suis dit, ben non, peut-être Dieu, il existe à travers la conscience qu'on en a.
Ah oui, et puis un ami pasteur m'a dit un jour, le simple fait de vouloir définir Dieu, on se trompe déjà.
Oui, mais par contre, je me dis, je sais pas, voilà, le doute, c'est bien aussi. On n'est pas arrogant ni prétentieux comme ça, mais...
Je doute.
Oui, oui.
Il y a des très belles phrases dans ce sens-là.
Mais des fois, je me dis, je sais pas s'il existe, mais quand j'entends des musiques sacrées comme ça, ces si belles musiques qui me touchent jusqu'au cœur, jusqu'à l'âme, alors je crois que justement, on le retrouve dans ceux qui ont écrit ces musiques, qu'ils les habitent un peu.
Il y a un poème qui est relatif à cette spiritualité ?
Bon, j'en ai beaucoup, mais j'ai par exemple Quête sidérale.
Ah ben voilà !
Dans l'espace infini où s'écoule ma vie, je cherche la lumière où se fond la matière. Je tente pas à pas de sauver du trépas cette âme qui m'anime et que le doute abîme. Dans l'espace du temps où tout n'est que présent, je cherche le chemin qui me mène à demain et me cogne éperdu à tout ce qui n'est plus. Par exemple.
Thank you.
Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, qui vécut de 1710 à 1736 et qui était ici interprété par les talents lyriques et Christophe Rousset. Une petite merveille de la réalisation artistique, les talents lyriques, on connaît bien, c'est un groupe d'une extrême qualité. Mais voilà qui, pour nous, Catherine Gaillard-Saron, nous plonge absolument au cœur même de la question, si j'ose dire, la question de la spiritualité. Je n'irai pas simplicistement parlant d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, mais c'est pas si loin que ça, finalement, parce qu'on cherche dans une réalité entre l'âme et Dieu, on cherche le chemin.
Oui, mais je pense qu'il existe et il prend ses racines en nous, je pense, ce chemin, à mon avis, déjà. Il faut se relier à soi pour pouvoir aller peut-être vers Dieu, par cette spiritualité. Se recueillir dans sa chapelle intérieure, déjà, dans cette solitude, dans le recueillement pour aller le rejoindre davantage.
Je Donc pense, aller vers Dieu serait aller vers soi-même.
C'est d'abord, oui, moi je dirais, qui plus que Dieu est seul.
Ah ben, de toute façon, dès qu'on est en haut de l'échelle sociale, dès plus on est haut dans la hiérarchie...
Vous ne le voyez pas comme ça,
connu.
Mais...
en fait.
Oui, mais je veux dire, on nous le montre seul, il a toujours été seul. Alors à un moment donné, on est seul aussi, on est à son image. Quelque part, on est seul aussi, donc il faut déjà apprendre à apprécier, connaître cette solitude et ne pas en avoir peur. Et puis en fait, une fois qu'on a fraternisé, comment dire, qu'on a accepté sa solitude, alors peut-être que c'est plus facile... de supporter tout le reste. Et on est plus seul, en fait, à ce moment-là. On a
oui,
fait l'expérience,
on est plus
et puis...
seul, et pourtant, on a cette impression, quand même, d'une présence qui est, malgré tout, très... presque fantomatique, dans une certaine mesure, enfin, transparente.
Oui, c'est clair. Pour moi, ça se manifestera peut-être, justement, quand j'entends des belles musiques, comme le Stabat Mater ou d'autres... C'est des émotions profondes qui viennent me toucher, je ne sais pas d'où elles viennent, elles sont là, elles remontent et je me laisse émouvoir par ça. Et c'est ça qui est bien, peut-être que c'est ça aussi la spiritualité, c'est se laisser émouvoir par les choses profondes qui remontent, on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles sont là, il faut les laisser parler. Écrire c'est pareil, la poésie c'est pareil, c'est comme regarder un beau paysage, hein. Pour moi c'est pareil aussi, c'est... Je regarde, je ressens, je trouve que c'est une chance de pouvoir contempler et s'en émouvoir, parce qu'en fait, peu de gens prennent ce temps-là. C'est peut-être pour ça que les poètes existent. Ils vont voir, ils ramassent, ils quêtent, ils cueillent, ils récoltent, et puis après, sous forme de mots, ils offrent aux gens voilà, leurs poèmes, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, alors on le partage ou pas. C'est vrai que la poésie, c'est l'enfant pauvre un peu, mais bon.
Pourquoi l'enfant?
Oui, parce que c'est quelque chose qui se vend pas bien, etc. Mais en même temps, ça lui laisse cette liberté. Parce qu'à partir du moment où on se l'approprie, elle va perdre cette valeur, justement, qu'on lui accorde.
Est-ce que c'est un enfant pauvre parce qu'il ne se vend pas très bien? Sous-entendu, ça voudrait dire en clair qu'il est un enfant pauvre parce que commercialement pauvre, alors qu'en réalité, c'est très très riche.
Oui, ça c'est sûr, je le pense bien. Mais voilà, c'est dommage parce que quelque part les gens s'y intéressent pas, mais ils le savent pas. Ils le savent pas que tous en fait sont des poètes qui s'ignorent. Ils le savent pas tout simplement. Mais la poésie elle est partout. C'est la beauté du monde, à mon avis. La beauté c'est la poésie du monde.
Des
être,
mots,
en, être en état
mots,
de poésie pour moi c'est.
Tout l'éphémère des mots finalement.
Puis être en état de poésie pour moi ben, c'est voir ce qui est beau. C'est voir la spiritualité, c'est s'élever, c'est voir toutes ces choses, c'est les ressentir, puis en avoir du plaisir.
Et malgré tout, c'est les rechercher. Catherine Gaillard-Saron, ouais. Malgré tout, une quête d'un absolu.
Oui, mais on se rend compte, au bout du compte, qu'on ne sait pas grand-chose. Plus on vieillit aussi, plus nos certitudes s'effondrent. Et puis on doit avancer avec ce qui reste. Et puis peut-être ce qui reste, c'est cette espérance qu'il existe quelque chose auquel on peut se raccrocher.
Ça voudrait dire que le poète a le savoir, d'une certaine manière.
Je ne dis pas qu'il a le savoir, mais peut-être il se laisse plus qu'un autre, comment dire, pénétré par des intuitions. Il est plus perméable, plus poreux à certaines choses, parce qu'il accepte, parce qu'il se met en état de le recevoir, à mon avis. Mais je pense que tout le monde peut faire ça. Seulement les gens, ils sont pris par le quotidien, ils sont pris par autre chose, par la musique, etc. Moi, quand je travaille, par exemple, je ne mets pas de musique. Ça me déconcentre, même si elle est très belle. J'écoute la musique à d'autres moments, mais quand j'écris, j'ai besoin d'écouter ma musique intérieure, et si je veux bien l'entendre, il me faut du silence.
On se concentre sur autre chose.
Oui, sur ce qu'on veut dire, oui, bien sûr. Alors, bon, peut-être que j'ai encore pas le cerveau assez plat. On parle de plasticité du cerveau, que maintenant on peut zapper à gauche, à droite, que les jeunes, ils en sont capables. Peut-être que moi, je suis de l'ancienne école, je ne sais pas encore.
Le poète serait, au fond, l'artiste proche de Dieu.
Oh non.
Proche par la sensibilité.
Mais disons que c'est vrai qu'en général, le poète, il aura cette sensibilité qui va le faire se rapprocher de toutes ces questions, à mon avis. Il sait pas, mais il cherche. Et je suis souvent très étonnée quand je lis d'autres poèmes, ou quand j'entends d'autres poètes, quand je vais dans des concours, par exemple, puis on lit tous les textes qui ont gagné, et je suis toujours très, très émue et très heureuse de voir qu'au fond, même si on sait pas si quelque chose existe, tous les poèmes vont toujours dans ce sens. Alors, tous ces gens qui vont dans le même sens, alors il doit bien y avoir quelque chose. C'est comme un aimant central qui nous attire. On est aimanté par l'aimant central. Qui serait Dieu.
Une sorte d'infini.
Mais pour ça, il faut peut-être s'ouvrir, il faut ouvrir une porte, il faut la réactiver, puis à partir du moment où on l'aurait réactivée, eh bien on se laisse attirer vers cet aimant, qui est un aimant central Dieu. Voilà, c'est une théorie, mais pourquoi pas. J'aime bien ça, j'aime bien cette théorie.
Oui, c'est un postulat, c'est une théorie. Est-ce que c'est suffisant d'avoir une théorie? Est-ce que c'est suffisant de ne pas avoir de certitude?
Les certitudes, ça c'est... Qu'est-ce que c'est une certitude,
hein? Tout soit relatif, dit-on. Enfin,
on dit qu'une vérité est un mensonge qui a longtemps servi. Les certitudes, je veux dire, voilà, appuyez-vous sur vos principes, ils finiront bien par céder, enfin, etc. Je veux dire, à un moment donné, on en a quand on est jeune, des certitudes, oui, on en est plein. Et puis en fait, plus le temps passe, plus on s'aperçoit que ces choses auxquelles on croyait, ces choses qu'on espérait, ben, c'est pas tout à fait ça. On se dépouille un peu, peut-être que... Vivre, vieillir, c'est se dépouiller, comme à l'image de la nature qui se dépouille. Et puis, en définitive, on est là, comme les arbres nus. Et puis, on part, mais quelque chose d'autre revient. Voilà peut-être ce que je sais. Voilà. Je peux même vous lire ce poème, ce que je sais.
D'accord.
Je sais bien que les plus grands navires d'acier finissent par rouiller. Je sais bien que les mots de passent, que l'hiver succède à l'automne, que la nuit suit le jour... et que la ronde du temps ne m'attend pas. Mais je sais aussi que le printemps chasse l'hiver. Je sais que le soleil brille après l'orage, que le jour se lève après la nuit, que le changement ne change pas, et que le temps continue sa ronde sans fin. Alors je comprends que ma vie n'aura pas de fin, qu'elle est comme toute chose, qu'elle naît, meurt et puis renaît, que je suis dans la ronde du temps, que je tourne avec elle, et que le bonheur dans la vie, c'est la vie, miracle de chaque instant, où tout peut naître entre nos mains.
Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes, ce qui m'habite et qui m'obsède. Ce qui m'habite et qui m'obsède. Celui qui chante se torture. Quelle crise en moi, quel animal je tue, ou quelle créature, au nom du bien, au nom du mal. Seuls le savent ceux qui se turent. Seuls le savent ceux qui se turent. Machado dort à Collioure. Trois pas suffirent hors d'Espagne. Que le ciel pour lui se fit lourd. Il s'assit dans cette campagne et ferma les yeux pour toujours. Et ferma les yeux pour toujours. Au-dessus des eaux et des plaines, au-dessus des toits, des collines, un plein champ monte à gorge pleine. Est-ce vers l'étoile Olderlin? Est-ce vers l'étoile Verlaine? Est-ce vers l'étoile Verlaine? Marlowe il te faut la taverne. Non pour Faust, mais pour y mourir. Entre les tueurs qui te cernent de leurs poignards et de leurs rires, à la lueur d'une lanterne, à la lueur d'une lanterne. Étoile, poussière de flamme, en août qui tombait sur le sol. L'hécatombe de Rossignol, mais que c'est l'univers du drame, mais que c'est l'univers du drame. La souffrance enfante les songes comme une ruche ses abeilles. L'homme crie où son fer le ronge et sa plaie engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges, plus beau que les anciens mensonges. Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute. Ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes. Ce qui m'habite et qui m'obsède, ce qui m'habite et qui m'obsède.
Endast en gång såg jag den man. Mina ögon blev som förvända, så som vinden gångade han. Rask och orädd, säker att segra, han såg på mig och han log. Han såg min ros och log. Sen han gångade mig förbi, men han gångade mig förbi. En gång såg jag den man. Mina ögon blev som förvända, så som solen strålade han. All min levnad kom han att ändra. Han tog på mig och han log. Han tog min ros och log. Sen han gångade mig förbi, han gångar mig förbi. En gång såg jag den man. Mina ögon blev som förvända, sådan man, sån man är han. Att hans hand kan livet förlända. Han bröt mitt motstånd, han log. Han bröt min ros och klog. Sen han gång tvingar mig förbi, men han gångar mig förbi.
Solitude aimée que je cache en mon sein, pareil à un enfant, je t'aime et te chéris. Je te porte en mon corps, mon âme et mon esprit, et tu nourris mes rêves et mes secrets desseins. Ô solitude aimée qui habite mon cœur, qui éteint l'amertume et apaise mes peurs, tu sais me protéger de la folie du monde, préserver mon regard de sa laideur immonde. Tu sais me rassembler au centre de mon être et m'éloigner du vide où brille le paraître. Ô solitude aimée qui chasse la tristesse, amie de la jeunesse comme de la vieillesse, tu me montres en silence les chemins essentiels, détournant de mes pas les pièges matériels. Tu ouvres mes pensées au ciel et à la terre et orientes mon âme dans le vaste univers. Ô solitude aimée qui habite mon cœur, où je viens déposer mes heurts et mes malheurs, tu m'accueilles en ton cœur comme en une chapelle, et je viens y prier respectant ton appel. En toi je me recueille et en toi je grandis, car tu m'as révélé le vrai sens de la vie. Ô solitude aimée, où naît ma poésie, où mes yeux éblouis sont bus sur la beauté, tu es le sanctuaire où je me réfugie, le temple protecteur de mon intimité. Tu élèves mon âme au-delà des montagnes et éclaires ces lieux où les ténèbres stagnent. Ô solitude aimée qui demeure en mon sein, je te porte confiante, sans souci de demain, car tu sais me guider au centre de mon être et me relier à Dieu, au ciel et à la terre.